le magazine des Nations Unies.
La MONUSCO s'en tient à l'application de l'accord du 31 décembre par toutes les parties prenantes et en appelle à la publication d'un calendrier électoral réaliste en RDC. C'est en réaction à la proposition du président de la CENI de voir les scrutins se tenir en 2019. La RDC enregistre de nouveaux mouvements des déplacés. Selon OCHA, il y aurait entre 3,8 millions et 4 millions de personnes déplacées au 30 septembre 2017. Les détails dans cette édition. Et puis les États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, s'engagent à éradiquer d'ici 2024 l'apatridie, un engagement pris lundi dernier à Brazzaville, en République du Congo, et dont les prémices avaient été posées en juin dernier sur la rive gauche du fleuve, à Kinshasa. Un expert du ACR, Pacom Ngomengame, nous apportera un éclairage sur ce concept.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. La MONUSCO s'en tient à l'application de l'accord du 31 décembre par toutes les parties prenantes, et ce, conformément au mandat lui confié par le Conseil de sécurité à travers la résolution 2348. C'est en tout cas la réaction de la mission onusienne lors de la conférence hebdo des Nations Unies, mercredi dernier, au propos du président de la CENI, Corneille Nanga, estimant raisonnable le délai de 504 jours pour organiser de bonnes élections en RDC. La MONUSCO en appelle par ailleurs à la publication d'un calendrier électoral réaliste et susceptible de susciter l'appui de la communauté internationale. Jean-Pierre Lalicoco.
D'après Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO, la mission s'en tient au respect de l'application de l'accord de Saint-Sylvestre.
Les signataires de cet accord conviennent de l'organisation de 3 élections, une seule séquence, au plus tard le 31 décembre 2017. Mais elle dit aussi que le CNSA, le gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement de ces élections. Donc, à nos yeux, cet accord est toujours valable.
Pour ce faire, la MONUSCO exige des conditions dans l'application d'un calendrier électoral réaliste.
Qu'à l'heure actuelle, la publication d'un calendrier électoral réaliste, la mise en œuvre des mesures de décrispation et la garantie du respect des droits et libertés fondamentales.
Les rassemblements rejettent les propositions de Corneille Nanga. Alors, question, quelles sont les précautions prises par la MONUSCO pour éviter une implosion sociale en RDC? Écoutez encore la réponse de Florence Marchal.
La réaction que je vais avoir, c'est celle de réaffirmer notre croyance en la possibilité de parvenir à nouveau à l'esprit de consensus qui avait prévalu lors de la signature de l'accord. Le représentant spécial du secrétaire général mène des missions de bons offices avec toutes les parties prenantes.
Autre actualité, la RDC continue à enregistrer des mouvements des déplacés dans différentes provinces du pays. Selon un rapport d'OCHA, le nombre atteint au 30 septembre 2017 oscille entre 3,8 millions et 4 millions de personnes déplacées. La province du Nord Kivu vient en tête avec plus d'un million de déplacés. Suivez à ce sujet les propos de Joseph Makamba Dibaya de OCHA, recueillis par Jean-Pierre Elali Coco. C'était lors de la conférence hebdo des Nations Unies.
Au 30 septembre 2017, le rapport fait état d'un chiffre variant entre 3,8 et 4 millions de personnes déplacées. La province du Nord Kivu abrite le plus grand nombre de déplacés avec près de 1 million de personnes, soit environ 26% du chiffre global. En outre, près de 300 000 nouveaux déplacés ont été récemment enregistrés entre juin et septembre 2017. Le troisième trimestre de l'année en cours a également enregistré un grand nombre de personnes retournées, estimées à quelque 213 000, dont une majorité dans la province de Tanganyika, avec près de 90 000 personnes, représentant 42% des retournées à travers la RDC. Par ailleurs, la région du Kasaï a connu aussi un grand flux de retournées entre août 2016 et septembre 2017, soit plus de 631 000 personnes qui ont regagné leur village d'origine.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Quelques hommes et femmes des médias de Kinshasa ont pris part du 18 au 19 octobre 2017 à un atelier de sensibilisation à la problématique de l'apatridie dans le monde. Un atelier organisé par l'UACRRDC, alors que se tenaient à Brazzaville, de l'autre côté du fleuve Congo, les travaux de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. En charge de la protection au bureau de la représentation régionale du UACRRDC, Pacom Ngomengame décortique pour nous le concept d'apatridie et son ampleur dans le monde et en République démocratique du Congo. L'expert du UACR répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Pacom Ngomengame, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous entendez par apatridie? Apatridie, en réalité, c'est un concept global qui renferme la problématique auxquelles font face les apatrides, c'est-à-dire le fait qu'un individu ou un groupe d'individus ne soit pas reconnu comme citoyen d'aucun pays en vertu de sa législation.
C'est-à-dire quelqu'un qui est sans nationalité.
Si on peut le dire comme ça, en effet.
Alors, comment on devient apatride ?
Bien, il y a plusieurs facteurs par lesquels on peut devenir apatride. Il peut notamment s'agir des questions de conflits de lois relatifs à la nationalité. Il peut s'agir des décisions administratives ou politiques. Il peut également s'agir des situations, je vais dire, naturelles, conflictuelles, en rapport avec la transmission de nationalité. Et donc, c'est un ensemble de situations qui occasionnent l'apatridie ou augmentent ces risques auprès de certains individus.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'ampleur de ce phénomène dans le monde, en RDC, en Afrique ?
Alors, dans le monde, des études récemment ont démontré que nous avons environ un peu plus de 10 millions d'apatrides. En ce qui concerne la RDC, nous n'avons pas encore véritablement cerné de façon concrète l'ampleur du phénomène, tout simplement parce qu'une étude n'a jamais été menée à cet effet. C'est la raison pour laquelle l'OICR est en train tout justement de mener, de poser les jalons afin que courant 2018, une étude nationale sur l'apatridie puisse être conduite en RDC, et nous pensons que les résultats de cette étude vont nous renseigner un peu plus réellement sur l'ampleur du phénomène et sur la gravité de sa situation ici. Mais d'ores et déjà, au regard de l'historique de la RDC en termes de mouvements migratoires, en termes de conflits armés, nous sommes persuadés que plusieurs personnes et plusieurs groupes de personnes sont à fort risque d'apatridie.
Donc, en d'autres termes, l'apatridie ne concerne pas que les étrangers dans un pays.
Oui, en effet, et c'est tout justement un de nos messages clés pour dire que l'apatridie ne concerne pas uniquement les étrangers, mais c'est bien plus, d'ailleurs, premièrement, un problème national, et nous invitons tout à fait les autorités nationales, provinciales et locales à pouvoir cerner réellement ce concept pour que les citoyens congolais puissent se voir reconnaître et octroyer les documents d'identité et de nationalité qui attestent réellement de leur appartenance à la nationalité congolaise. Et donc, à cet égard, c'est un challenge, comme vous l'avez si bien dit, c'est un défi national pour les nationaux en priorité.
Donc, la RDC, on dirait, est sur la liste des pays qui ont des risques d'apatridie.
Oui, en effet, la problématique globale en RDC est liée à la sécurité, liée au mouvement migratoire. Il faut savoir que la RDC est frontalière avec 9 pays qui eux-mêmes sont en conflit pour la plupart et qui enregistrent des mouvements migratoires ici en RDC depuis la période anticoloniale. Et donc, vous comprenez que toutes ces situations font en sorte que plusieurs couches de population, groupes de personnes ne sont pas clairement identifiées comme des nationaux congolais, mais qui sont sur le territoire congolais. Et donc, à cet égard, nous pensons que oui, il y a effectivement plusieurs groupes de population ici qui sont à très fort risque d'apatridie, et c'est tout justement l'objectif du HCR que d'accompagner le gouvernement congolais à pouvoir mettre la main sur cette question et essayer d'y trouver des solutions idoines.
Mais est-ce qu'un enfant né d'un couple d'apatrides, par exemple, sur le sol congolais, est-ce qu'il est aussi apatride?
Non, en principe, la loi congolaise, je cite notamment la loi de 2004 relative à la nationalité congolaise, dispose clairement en son article 2.2 alinéa 3 que est reconnu de nationalité congolaise d'origine tout enfant né sur le territoire congolais de parents apatrides. Donc la loi reconnaît clairement que les enfants d'apatrides nés en RDC ont la nationalité congolaise d'origine, mais cela, ça c'est le texte, encore faut-il que dans les faits, au niveau de l'administration, on puisse faciliter tout justement la mise en application de cette disposition qui est très importante, qui est avant-gardiste par rapport à beaucoup de législations africaines sur la nationalité, en ce sens que cette disposition est déjà conforme à tout justement un des articles clés de la convention de 1961 sur les réductions des cas d'apatridie.
En 2014, l'OASR a lancé une campagne pour l'éradication de ce phénomène. Ça, c'est une mesure préventive. Mais comment l'OASR s'occupe de la prise en charge des apatrides qui existent déjà?
Alors, nous sommes ici, nous avons déjà rencontré quelques cas de potentiels apatrides en RDC et nous menons un important plaidoyer auprès des autorités compétentes, notamment celle du ministère de la Justice, garde des Sceaux, qui est en charge des problèmes de nationalité en RDC, pour voir tout justement dans quelle mesure une solution effective peut être trouvée à ces cas. Mais de façon plus globale, nous sommes en train d'aller vers la mise en place d'un comité interministériel technique qui aura pour rôle d'appuyer le gouvernement dans sa politique sur l'éradication de l'apatridie. Nous pensons que ce comité va jouer un rôle important en la matière avec, bien entendu, un accompagnement du HCR.
Monsieur Pacome Ngome Ngame, merci.
Je vous remercie.
La journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, c'est le 17 octobre. Cette année, le programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, et l'Institut des Arts et Métiers l'ont célébré à Kinshasa par une série d'activités dans les conférences, débats et les concours d'innovation pour l'emploi des jeunes. Des activités qui visaient à mettre en exergue l'esprit créatif des jeunes Congolais, ainsi que les efforts fournis par les partenaires au développement et les Congolais pour réduire la pauvreté en RDC à travers la création d'emplois. En matière de protection des enfants, la MONUSCO a documenté 36 violations graves des droits de l'enfant la semaine dernière, en même temps qu'elle a eu connaissance de plusieurs allégations de recrutement et d'utilisation d'enfants comme combattants, porteurs, cuisiniers et gardiens de fétiches. La grande majorité de ces violations revient à la province du Nord Kivu et 40% concernent les meurtres et mutilations d'enfants. Les responsables de ces violations sont des groupes armés Mai Mai Kifoafoa, NDC Renové, FDLR Foka, FRPI et Raïa Mutomboki notamment. Enfin, près d'une centaine d'avocats de différents barreaux de la RDC ont été sensibilisés jeudi dernier à Kinshasa sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour pénale internationale. C'était au cours d'une séance d'information organisée par le bureau de sensibilisation de la CPI en collaboration avec l'association Carrefour des avocats congolais. Plusieurs thèmes ont été développés à l'intention des avocats, tels que les organes et la procédure de la CPI, ainsi que l'évolution des affaires en situation en RDC traitées par cette institution judiciaire internationale.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
À Bounia, en Ituri, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé de mardi à jeudi dernier un atelier sur le rôle et les bonnes pratiques professionnelles des avocats et ONG dans l'assistance et l'accompagnement judiciaire et la protection des victimes et témoins de violences sexuelles dans les zones de conflits armés. Au moins une trentaine de personnes ont participé à ces travaux. James Songa, du BCNUDH, venu de Goma et facilitateur de cet atelier, s'entretient à ce sujet avec Martial Kiza Biamungu.
L'objectif, c'est que on traite sur le rôle et les bonnes pratiques des avocats et des ONG dans l'assistance et l'accompagnement des victimes de violences sexuelles dans les zones de conflit. En fait, on veut à ce que on échange sur les questions spécifiques liées à la protection des victimes et des témoins pour permettre à ce que ces victimes viennent comparaître sans résistance, pour permettre à ce que les bonnes pratiques soient efficaces, pour permettre aussi une collaboration entre les acteurs qui interviennent dans le domaine.
Et quand vous parlez de la bonne pratique, vous faites allusion à quoi?
Nous faisons allusion à tout ce qui est mis en place par le BCNDH en termes de mécanismes de protection des victimes et des témoins et qui est aujourd'hui appliqué par les acteurs judiciaires, notamment la justice militaire et civile. Et puis maintenant, il faut intégrer les avocats qui accompagnent ces victimes-là et les ONG qui constituent les ponts entre les victimes et la justice. C'est pourquoi nous devons tous ensemble échanger sur ces questions-là qui constitue pour nous une question pertinente en matière de protection.
Là, vous parlez surtout des avocats et les défenseurs judiciaires. Mais les bénéficiaires directs de tous ces enseignements qui sont les victimes de violences sexuelles ne sont même pas associés à ces racontes.
Sans les victimes, sans les témoins, il n'y a pas de procès. Or, pour que les victimes viennent comparaître, pour que les victimes viennent au procès, il faut qu'il y ait des mécanismes de garantie. Et ce qui doit le mettre en œuvre sont les acteurs judiciaires, à travers la loi spécifique, quoi, en matière de protection des victimes et des témoins.
Souvent, nous observons un problème d'accompagnement des victimes, notamment sur le plan financier.
Bon, spécifiquement à Ituri, nous avons intégré les avocats et les défenseurs judiciaires. Mais ailleurs, nous prenons uniquement les avocats. Pourquoi Ituri? C'est parce que ici, il n'y a pas un barreau spécifique qui dépend tous de Kisangani. C'est une section ici, et nous venons de former à Kisangani, et qu'ici, il y a plusieurs défenseurs qui interviennent, que ce soit à Haru, à Mbassa, partout là-bas. Et nous avons invité tous ces partenaires de tous les coins là pour qu'ils participent ensemble. Parce qu'il y a des endroits où les avocats ne veulent pas aller. Or, ce sont les défenseurs judiciaires qui sont là. On doit traiter avec ces défenseurs-là. C'est pourquoi nous voulons le mettre tous ensemble pour qu'on réfléchisse. La question, ce n'est pas question avocat-défenseur. Il faut voir, premièrement, victime, témoin. Qui peut le faire mieux? Pour nous, c'est déjà un avantage. Ce n'est pas seulement avocat ou défenseur judiciaire. Si c'est l'avocat qui apporte, si c'est le défenseur qui apporte, qui accompagne la victime, pour nous, c'est déjà un succès. L'essentiel pour nous, le centre de notre intervention, de notre travail, victime et témoin. Celui qui peut apporter quelque chose peut nous aider.
Il y avait aussi des problèmes de réparation où certains greffiers se lamentaient même, il y a des jugements qui sont pris, mais l'exécution cause des problèmes. Les victimes ne sont pas toujours bénéficiaires des réparations.
Bon, en fait, le problème de la réparation, c'est un problème général. Et d'ailleurs, si tu discutes avec le professeur Nyabirungu, il parle dans ses exposés par la question de la réparation. La réparation, surtout par exemple devant les juridictions militaires où l'État congolais est condamné civilement comme responsable, ça pose un problème. L'État, on sait comment il est, qui peut aller traduire, qui peut aller saisir le bien de l'État, est-ce que même en saisissant le bien de l'État, c'est une solution? Donc, tous ces problèmes-là se posent problème. Il y a aussi, par exemple, pour des auteurs qui peuvent peut-être avoir une bonne volonté, mais s'ils sont condamnés au-delà de leurs moyens, ça pose un problème. Il y a des jugements où on condamne quelqu'un à payer 5 000 $. Lui n'a qu'un revenu de 200 $. Tu vois, ça pose déjà un problème. Il peut avoir cette volonté de payer, mais il n'a pas le moyen.
Là, comme vous organisez des séances de renforcement des capacités des acteurs judiciaires pour un bon accompagnement des victimes, qu'est-ce que vous comptez faire pour régler ces problèmes?
Tous ces problèmes-là, nous réfléchissons. C'est pourquoi nous avons commencé la formation d'abord des acteurs judiciaires, les magistrats civils et militaires et le personnel judiciaire. Et puis nous faisons maintenant avec les avocats et les ONG. Et après, maintenant, nous allons faire une table ronde pour qu'ensemble qu'on discute. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette question-là? Il y a un blocage. Mais est-ce qu'on va rester toujours dans le blocage? Est-ce que nous pouvons réfléchir ensemble pour voir comment nous pouvons débloquer cette situation-là?
Et puis, vous attendez quoi de ces participants à la fin de cette formation?
Bon, nous attendons d'eux qu'ils fassent des recommandations pour nous permettre, nous, prochainement, d'améliorer, de réajuster ou d'ajuster notre manière d'intervention ou des thèmes qui leur sont propres. Tu vois, nous ne sommes pas ici, nous venons, nous discutons avec eux, c'est eux qui peuvent nous dire, compte tenu de la réalité des terrains, voici ce que nous voulons, voici comment nous voulons que le BCNDH nous renforce.
Et après la rencontre, ces recommandations, vous allez en faire quoi?
Les recommandations, nous discutons, nous essayons de les regrouper et voir si nous sommes en mesure de les faire et nous les faisons. Pour preuve, c'est que l'atelier ici n'a pas été prévu. Lorsque nous avons fait l'atelier en juin avec les magistrats militaires, civils et le commandement militaire, c'est eux qui ont recommandé à ce qu'on n'oublie pas les autres acteurs qui sont les avocats et les ONG. Et à travers ces recommandations-là, nous avons prévu cette activité. Et aussi, quand ils vont nous faire des recommandations, nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire, même si on ne fait pas. Parce qu'il faut réfléchir à court, à moyen et à long terme. Si même on ne peut pas immédiatement répondre, mais à long terme, nous devons y réfléchir et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que nous venons en appui. On ne peut pas imposer une stratégie, mais on vient auprès de ceux qui pratiquent, qui nous disent ce que nous pouvons faire. C'est comme ça que nous sommes là.
Il y a beaucoup de zones où il y a encore des couches de violence, notamment dans le Walindu-Bindi, où il y a des victimes qui n'ont même pas accès à la justice, notamment pour quitter même Walindu-Bindi pour venir à Ituri ici, ça demande des moyens. Est-ce que vous êtes en collaboration avec certaines organisations qui font les monitoring sur place dans des coins et recoins de Ituri pour aider à ce que les victimes aient accès facile à la justice?
Bon, je pense que c'est le BCNDH, c'est une grande structure qui a beaucoup de dignité qui travaille dans cela. La difficulté, c'est la question de Walindu-Bindi, n'est pas vraiment une question prioritaire parce que moi, personnellement, j'ai déjà été maintes fois à Walindu dans des dossiers pour lesquels les miliciens sont poursuivis devant la justice militaire et nous avons accompagné. Il y a des cas où nous avons amené les victimes ici. Il en est de même à Mambasa. Récemment, avec la cour d'appel, nous avons pu déplacer certaines victimes de Mambasa jusqu'ici à Bougna. Donc le BCNDH travaille là-dessus, il donne son appui et nous travaillons avec les points focaux qui sont là, qui essaient d'identifier et qui peuvent aussi acheminer les victimes.
Merci.
Ok.
Restons toujours en Ituri, précisément à Guéti, à 60 km au sud de Bounia, où la MONUSCO a remis jeudi dernier au gouvernement provincial des matériels pour la radio communautaire dénommée Paksu Moja, ainsi qu'un bâtiment devant abriter la clinique juridique pour l'accompagnement des victimes des violences sexuelles. Selon le chef de la MONUSCO en Ituri, cette radio vise essentiellement à sensibiliser les miliciens des FRPI à quitter leur maquis en vue de la pacification de cette zone en proie aux conflits armés depuis 17 ans. Isaac Rimoyope nous fait le point.
La radio communautaire Pax Umoja, qui est la troisième à être installée dans cette zone, a une capacité de 1000 watts. C'est une dotation de la MONUSCO qui a fourni l'émetteur et tous les accessoires ainsi que les panneaux solaires pour le bon fonctionnement de cette radio. Elle arrose presque tous les territoires du Rumu et une partie de la province du Nord Kivu et des localités ougandaises au bord du lac Albert. Le directeur de la radio affirme qu'il reçoit des rapports d'écoute, notamment des leaders du groupe armé FRPI dans leur maquis. Il salue cette action de la MONUSCO qui va permettre de désenclaver cette entité et contribuer à l'éducation de la masse pour une paix durable au site d'Irumu. Mike Douga.
Ce projet, moi-même, je ne sais pas comment féliciter la MONUSCO, pas seulement nous, mais toute la communauté du site d'Irumu en général, commence déjà à lâcher les messages de paix, même pour les miliciens. Nous recevons même les réactions même des miliciens de la brousse. Ils disent qu'ils nous écoutent aussi très bien.
La MONUSCO a également construit à Guéti un bâtiment qui va abriter la clinique juridique pour la prise en charge psychosociale des victimes de violences sexuelles. Selon la responsable du bureau Jean Aranchéferie de Walindou Bindi, au moins 2 cas de viol des femmes sont enregistrés chaque semaine dans cette chefferie suite à l'activisme des miliciens de la FRPI. Sawadi Anualité.
Nous constatons que les miliciens ne sont pas éloignés de la population. Nous vivons presque ensemble. Au moins chaque semaine, on enregistre 2 ou 3 cas de violences sexuelles en chefferie de Walindou Bindi. Ça, c'est juste les cas qui sont connus. Mais les cas discrets, nous pouvons imaginer même à 5 cas par semaine.
Le chef des bureaux de la MONUSCO en Ituri a déclaré que la population d'ici de Dirumu a déjà tant souffert des affres de la guerre. Il a interpellé les miliciens qui commettent des exactions contre leurs propres femmes et enfants de quitter la brousse pour le rétablissement d'une paix durable dans cette entité. Julius Fondong.
Nous aimerons que ce radio soit la voix de la paix. Je lance un appel à mon petit frère Mbadou. Je t'appelle mon petit frère Relax. Je t'appelle monsieur Mbife. Que trop c'est trop. Il nous faut une autre vision de la chose commune.
Signalons que le coût de ce projet à impact rapide est d'environ 140 000 dollars américains. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche a trait à la situation humanitaire en RDC et c'est Joseph Makamba de Ocha qui répond.
La question est de savoir exactement si les conditions humanitaires des déplacés, de ces millions de déplacés dont vous avez dressé le tour d'horizon, vous choquent ou pas. Dans quelle mesure précisément la MONUSCO s'implique dans les plaidoyers en faveur de ses concitoyens auprès du gouvernement central?
Nous ne sommes pas indifférents vis-à-vis de la situation des déplacés. Mais ce qu'il faudrait aussi savoir est que quand il y a des personnes qui se déplacent, il y a des étapes à suivre pour parvenir à définir ou à déclencher un mécanisme d'assistance afin d'améliorer leurs conditions de vie. La première des choses est que quand nous recevons l'information sur le mouvement des populations, nous devons procéder à des évaluations. C'est grâce à ces évaluations que nous pourrons définir les besoins prioritaires et les besoins urgents pour les déplacer, et définir réellement si c'est un déplacement qui va rester longtemps ou c'est un déplacement provisoire. C'est après tout ça que l'on peut passer à la recherche des fonds et voir ce qui peut être fait. Quant à ce que nous faisons pour parvenir à impliquer le gouvernement, c'est que vous savez qu'au début de chaque année, nous rédigeons un plan de réponse humanitaire. C'est là que nous inscrivons les grandes lignes des activités que nous envisageons et nous les partageons avec le gouvernement. Et c'est toujours les ministres des Affaires humanitaires qui procèdent au lancement du plan de réponse humanitaire. C'est notre façon de l'impliquer. Et nous reconnaissons aussi qu'il y a des actions qui se font par le gouvernement sans passer forcément par les acteurs humanitaires. Et vous le savez, ça se fait toujours. On en parle quand le gouvernement le fait. Et nous savons que nous maintenons de bonnes relations et des communications, des collaborations avec le gouvernement pour la réponse aux problèmes des déplacés.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Bonjour, je m'appelle Nanambala. Je suis à Radio Kapi depuis près de 14 ans. Actuellement, j'évolue au sein de la rédaction sportive de votre radio. et je suis reporter sportive et éditrice web également, puisque nous mettons également en ligne nos informations sportives que nous diffusons sur les ondes ou d'autres que nous diffusons d'abord sur le web avant de vous le transmettre par la voix des ondes. Donc nous commençons par faire le monitoring avec tous les médias congolais et étrangers. Et après, nous faisons la récolte des informations au moyen de téléphone et également sur terrain par des dictaphones. Et cela nous permet juste après de voir l'information la plus pertinente. Nous la prenons pour le mettre sur le site internet de votre radio, www.radiocapi.net, dans la rubrique sport. Avant de venir à Radio Capi, j'ai d'abord été à la radio-télévision Kin Malebo, et après suis allée à la radio Réveil FM, et après c'était l'agence Presse Associée, et puis un bref passage au sein de l'agence France Presse. Et mon temps libre actuellement, c'est plus construit par ma petite fille qui a à peine une année. Donc il m'est vraiment difficile de me déplacer puisque je l'ai tout le temps avec moi. En ce qui concerne la musique, je suis une chrétienne pratiquante et j'écoute souvent la musique chrétienne. Donc les autres, je les écoute, mais pas vraiment ma préférence. Et le sport, je pratique souvent la marche. Je peux faire 10 km par jour sans me fatiguer. Quant à la nourriture, je mange tout ce qui est présent devant moi. Si je trouve que c'est bon à manger, je mange. Si je ne le trouve pas, je ne mange pas non plus. Ce n'est pas vraiment compliqué. Hein, si vous m'invitez chez vous, ne vous en faites pas. J'essaie aussi de goûter au mets d'autres ethnies pour savoir un peu comment ça se passe. Comme vous le savez, le Congo a une diversité d'ethnies. Donc on essaye de goûter un peu à tout. Et en ce qui concerne le projet d'avenir après Radio Capi et la MONUSCO, vous avez bien dit que ce sont le projet. Donc je ne peux pas les dévoiler ici devant vous, fidèles auditeurs. C'est vrai que je les garde pour moi, parce que c'est un secret, c'est un projet. Donc si je les dis ici, ce ne sera plus un secret pour moi. Donc par là, je peux vous dire un peu de patience. Et la patience également, je vous les demande, de rester toujours branchés sur Radio Capi. Merci à vous de nous avoir suivis. Maintenant, dans le milieu de Volende Kiviso, accent Kikwayeri. Toi, c'est qui dit là.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Une date importante à noter dans vos calepins, le 24 octobre, c'est la journée des Nations Unies, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. C'était en 1945. Et à la fin de ce mag UN, on vous dit merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Alain Goy, Honoré Mikanga Kalala était au reportage, également à la réalisation, Jean-Pierre Elali Coco à la coordination, Martin Sebujangwe à la supervision, et Tina Salama, c'est moi, à la présentation. À très bientôt sur Radio Capi. Ciao.